Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 12 avril 2019. Nathalie Barge et Abdourahmane Dia à la présentation. Voici les titres.
Poursuite des manifestations au Soudan, les militaires au pouvoir démentent avoir mené un coup d'État.
La mobilisation ne faiblit pas en Algérie malgré l'annonce de la tenue de la présidentielle le 4 juillet.
L'opposant tchadien Salek Ebzabo dénonce l'annulation du congrès de son parti par les autorités.
Les avocats de Julian Assange engagent la bataille contre son extradition vers les États-Unis.
En partie magazine, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, de passage dans nos studios, s'exprime sur l'accord de Khartoum.
J'ai confiance puisque c'est en toute conscience que toutes les parties ont signé cet accord.
Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports.
Au Soudan, après la destitution du président Omar el-Béchir, les manifestants veulent désormais chasser les généraux du régime déchu. Ces derniers ont promis un gouvernement civil. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Lors d'une conférence retransmise à la télévision, le général Omar Zine Labidine a tenté d'apaiser les manifestants qui ont bravé le couvre-feu imposé de 20h à 2h du matin temps universel pour marquer leur refus d'une transition militaire. Présenté comme le chef du comité politique du conseil militaire, il a promis un dialogue de l'armée avec les entités politiques. Campant depuis 7 jours devant le QG de l'armée, les manifestants ont passé la nuit dans le calme. Yassir Abdel Salam, représentant du Soudan à l'ONU, a déclaré que le Conseil militaire de transition, je cite, « ne gouvernera pas » et qu'il se contentera d'être le garant d'un gouvernement civil qui sera formé en collaboration avec les forces politiques et les parties prenantes. Fin de citation. Plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Union européenne, ont exhorté les militaires à intégrer les civils au processus de transition. Les principaux chefs de l'armée ont confirmé que M. Béchir est en détention mais qu'il ne serait pas livré à l'étranger. En 2009, la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre Omar el-Béchir pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, ajoutant en 2010 l'accusation de génocide.
Grand cortège dans le centre d'Alger pour un 8e vendredi consécutif de contestation. Le premier depuis l'entrée en fonction du président par intérim et son annonce d'une présidentielle le 4 juillet pour désigner un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Morgane Guériec.
Le nombre exact de manifestants est difficile à établir, ni les autorités ni les protestataires ne communiquant de chiffres. Mais en début d'après-midi, une foule dense emplissait les rues du centre-ville, au moins aussi importante que celle des vendredis précédents. Des manifestations d'ampleur diverses sont signalées dans d'autres villes d'Algérie, notamment Constantine et Annaba, ou Tizi Ouzou et Béjaïa, principale localité de Kabylie, où de très nombreux manifestants sont signalés. Après avoir obtenu le 2 avril la démission du chef de l'État, le mouvement populaire algérien réclame désormais le départ d'Abdelkader Ben Salah, apparatchik de 77 ans, chargé par la Constitution d'assurer l'intérim, mais aussi de l'ensemble des personnalités de l'appareil mis en place par M. Bouteflika en 20 ans de pouvoir. Les contestataires estiment que les structures et personnalités mises en place par M. Bouteflika ne peuvent garantir un scrutin libre et équitable pour désigner son successeur et craignent une élection frauduleuse ne servant qu'à conforter le système au pouvoir.
Au Cameroun, 4 militaires ont été tués ce matin dans la région de l'extrême nord par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule près de la frontière avec le Nigeria. Selon des sources locales, il y a eu au moins 8 blessés.
Et au Nigeria voisin, 2 femmes kamikazes se sont fait exploser dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, tuant 2 personnes. Les 2 femmes ont déclenché les explosifs qu'elles portaient sur elles pour éviter d'être arrêtées par des soldats et des membres des milices qui combattent les membres de Boko Haram aux côtés de l'armée.
Le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu ce vendredi à Lubumbashi pour sa première visite à l'intérieur du pays près de 3 mois après son investiture. Selon la présidence congolaise, le chef de l'État qui est arrivé à bord d'un vol régulier a été accueilli par des milliers de personnes. Il doit présider la réunion du Conseil de défense en vue de mettre un terme à l'insécurité récurrente dans la ville.
Au Tchad, le congrès de l'Union nationale pour le développement et le renouveau de l'opposant Salek Ebzabo, qui devait se tenir aujourd'hui n'a pas été autorisé. Un opposant équato-guinéen invité à y prendre part a également été arrêté. Le point avec André Kolmajingar depuis N'Djamena.
Ce sixième congrès de l'UNDR qui devrait se tenir ce vendredi à Mongo a été décidé lors du cinquième congrès tenu à Mundu il y a 5 ans. Les délégués des provinces du sud du Tchad et les invités de l'extérieur du pays se sont tous retrouvés en N'Djamena avant de s'ébranler pour Mongo, ville qui doit abriter ses assises. Et c'est après avoir présenté leur civilité aux autorités locales que ces militants seront surpris plus tard de la décision verbale du gouverneur de la localité interdisant le congrès pour des mesures de sécurité, alors que son patron Mahamat Abali Salah, ministre de l'administration du territoire, a été saisi le 20 février 2019. Quelques minutes plus tard, les policiers débarquent dans le quartier général des militants de l'UNDR et interpellent l'opposant de la Guinée équatoriale, Ondo Essono, invité à ce congrès sans mandat d'arrêt. Qu'est-ce que les autorités tchadiennes reprochent exactement à Ondo Essono, chef de file de l'opposition guinéenne, pour qu'il soit rattrapé à Mongo, situé à environ 500 km de la capitale, par le service de renseignement généraux alors qu'il est passé par l'aéroport de N'Djamena? Silence radio du côté des autorités en charge de la sécurité publique. Aux dernières nouvelles, l'opposant guinéen a quitté les renseignements généraux pour se retrouver en ce moment dans les locaux de l'ANS, Agence nationale de sécurité. André Kotumadingar, N'Djamena, VO Afrique.
L'Organisation internationale pour les migrations a annoncé avoir rapatrié par avion 160 migrants à destination de 3 pays africains depuis Tripoli, qui fait l'objet d'une offensive militaire depuis une semaine. Jeudi soir, un vol charter à destination du Mali, puis de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso a transporté 160 migrants, dont 16 enfants et 20 femmes, ont indiqué ce vendredi un communiqué de l'OIM en Libye.
L'écrivain ivoirien Bernard Dadier, décédé à l'âge de 103 ans, a été inhumé ce vendredi à Abidjan. Une foule d'anonymes et de personnalités politiques ont assisté à la messe de Requiem.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, qui vient de passer sa première nuit en prison après son arrestation à Londres, entend contester et combattre la demande d'extradition de Washington qui veut le juger. Des détails avec Raïssa Girondin.
Le lieu de la détention de l'Australien de 47 ans n'a pas été communiqué, mais selon des experts juridiques, il pourrait s'agir de la prison de Wandsworth, établissement où il avait déjà été incarcéré 9 jours en 2010. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, arrêté à Londres jeudi, est reconnu coupable par la justice britannique d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Il entend contester et combattre la demande d'extradition de Washington. C'est ce qu'a déclaré après sa comparution son avocate Jennifer Robinson, pour qui son arrestation crée un dangereux précédent pour les organes de presse et les journalistes dans le monde. Julian Assange est inculpé ici, aux États-Unis, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un piratage informatique, crime passible d'une peine maximum de 5 ans de prison. Selon la justice américaine, la diffusion sur Wikileaks de centaines de milliers de documents secrets défense a été rendue possible grâce à la complicité d'un analyste du renseignement américain, Bradley Manning, condamné, lui, en 2013 à 35 ans de prison. Jeudi, le président américain a réagi avec prudence. « Je ne sais rien de Wikileaks, ce n'est pas mon affaire », a-t-il lancé en renvoyant les questions vers son ministère de la Justice.
Les juges de la Cour pénale internationale ont refusé l'ouverture d'une enquête en Afghanistan. La procureure générale Fatou Bensouda avait demandé en 2017 l'autorisation d'ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumés, commis notamment par des soldats américains. Cette décision intervient une semaine après la révocation par les États-Unis du visa de Mme Bensouda.
Le président américain Donald Trump a confirmé envisager le transfert de clandestins arrêtés à la frontière vers des villes sanctuaires, sachant que les démocrates sont réticents à changer nos lois très dangereuses sur l'immigration. Nous envisageons en effet très sérieusement de placer des immigrants illégaux dans des villes sanctuaires, a-t-il écrit sur Twitter.
Les États-Unis ont déclassifié leurs dernières archives sur les violations des droits humains en Argentine durant la dictature militaire soutenue par Washington. Le ministre argentin de la Justice, Germán Garavano, a reçu les 5600 nouveaux fichiers déclassifiés lors d'une cérémonie aux archives nationales à Washington. Depuis 2016, l'opération a permis de remettre à Buenos Aires près de 50 000 pages de documents, indique le département d'État.
Et les dirigeants de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi se sont réunis à Paris pour relancer les projets de coopération au sein du premier ensemble automobile mondial. Déstabilisé par les déboires judiciaires de son ancien patron Carlos Ghosn, le nouveau conseil opérationnel de l'alliance, créé le 12 mars à Yokohama au Japon, était rassemblé pour la première fois au siège du constructeur français. Jean-Dominique Sénard a remplacé Monsieur Ghosn, incarcéré au Japon pour des malversations présumées.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Voilà, on passe à l'actualité économique dans la minute éco présentée par Morgane Guériec.
Les prix du café ont poursuivi leur recul. Jeudi, le Robusta a chuté à Londres à 1 410 $ la tonne, son prix le plus bas depuis 3 ans, tandis que l'Arabica a plongé à 92,60 cents la livre, son plus bas depuis 13 ans et demi. En revanche, les prix du cacao ont continué d'augmenter sur la semaine. Le marché a pu profiter hier des résultats du groupe suisse Barry Calbo, numéro 1 du cacao, et qui a vu ses volumes de vente grimper de 2,4% au premier trimestre. Les cours du sucre sont restés stables sur la semaine. À Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en août valait 336 $ contre 337,90 $ le vendredi précédent. À New York, la livre de sucre brut pour livraison en mai valait 12,71 cents contre 12,70 7 jours auparavant. Le gouvernement gabonais a annoncé avoir suspendu le permis du forestier chinois, la société des sillages de Moanda, exploitant plusieurs sites dans le pays. La société est accusée d'avoir surexploité les sites pour lesquels elle avait obtenu du gouvernement un titre d'exploitation, notamment grâce à des pots de vin, d'après l'ONG britannique Environmental Investigation Agency.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On commence par le tirage au sort de la CAN 2019 qui a lieu ce soir en Égypte.
Oui Nathalie, et pour l'occasion, en plus du parterre de journalistes, de dirigeants et d'entraîneurs, la CAF a invité 4 légendes qui serviront de témoins de ce tirage au pied des pyramides du Sphinx. Il s'agit du Nigérien Emmanuel Amunike, le Marocain Moustapha Hadji, l'Ivoirien Yaya Touré et le Sénégalais El Hadj Diouf. Mais déjà hier, l'instance africaine du football a dévoilé les chapeaux et officialisé la répartition des 24 équipes qualifiées sur la base du dernier classement mondial FIFA. 6 groupes de 4 équipes chacune seront formés. Ainsi, on retrouve l'Égypte, pays hôte, le Cameroun tenant du titre, le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria et le Maroc dans le pot 1. Le chapeau 2 renferme la République démocratique du Congo, le Ghana, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée et l'Algérie. Et pour leur première participation à une phase finale de CAN, la Mauritanie et Madagascar se retrouvent dans le pot 3 en compagnie de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, du Bénin et du Kenya. L'autre novice de la compétition, le Burundi, partage le pot 4 donc avec le Zimbabwe, la Namibie, la Guinée-Bissau, l'Angola et la Tanzanie.
Un match reporté s'inédié au Soudan.
Et oui, la rencontre entre les clubs soudanais d'El Hilal et tunisien de l'Étoile du Sahel, censée se tenir cette semaine au Soudan, a été reportée pour des raisons sécuritaires, d'après la CAF. Cette annonce est intervenue juste quelques heures après le renversement par l'armée soudanaise du président Omar El-Béchir au terme d'un soulèvement populaire. L'espace aérien a été fermé pour 24 heures et les frontières terrestres jusqu'à nouvel ordre. Ce match retour de la Coupe CAF devait avoir lieu dimanche au stade El Hilal d'Omdurman. L'Étoile du Sahel a remporté le match aller 3-1 la semaine dernière à Sousse en Tunisie.
Et l'entraîneur de Liverpool condamne les chants racistes contre Mohamed Salah.
Oui, Jürgen Klopp a réclamé le bannissement à vie des supporters de Chelsea qui ont proféré des insultes contre l'attaquant égyptien des Reds dans une vidéo circulant sur les médias sociaux avant le match de Ligue Europa entre le Slavia et Chelsea à Prague. Un groupe de 6 supporters des Blues entonne un chant où Salah, ancien joueur du club londonien qualifié de poseur de bombes. 3 personnes présentes sur la vidéo ont été identifiées avant le match et l'accès au stade leur a été interdit.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge et Abdourahmane Dia en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Nous avons reçu ce vendredi à la Voix de l'Amérique le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui était en visite officielle de travail à Washington pendant 5 jours. Lors d'un entretien dans nos studios, Félix Yepassi Zembrou lui a tout d'abord demandé quel était son point de vue sur la situation au Soudan, où l'armée a destitué le président Omar el-Béchir.
Comme vous savez, cet événement m'a aussi surpris ici à Washington. Donc je n'ai pas, c'est par voie de presse que je suis donc informé de cela, mais nous suivons de près l'évolution, puisque vous savez, avec le Soudan, nous sommes des pays voisins, alors tout ce qui touche le Soudan vraiment a des impacts sur l'Arabie centrafricaine, mais nous suivons de près.
Oui, mais justement, Monsieur le Président, quelles conséquences ce changement aura-t-il sur les relations entre la République centrafricaine et le Soudan, d'autant plus que ces deux pays partagent des frontières communes?
Vous savez, ce sont deux pays voisins, mais qui sont aussi deux pays souverains et qui aussi ont, disons, des problèmes internes. Donc, nous agissons sur le principe de non-ingérence. Et que nous suivons de près, puisque c'est un pays frère et nous sommes voisins. Il y a des, il peut avoir des échanges, disons, des problèmes entre au niveau frontalier, des choses comme ça, mais nous suivons de près ce qui se passe dans notre pays frère.
Monsieur le Président, après la signature et la mise en application de l'accord de Khartoum, peut-on dire aujourd'hui que la paix et la sécurité seront désormais effectives en République centrafricaine, d'autant plus que les groupes armés qui sont signataires de cet accord se sont ces derniers temps illustrés par des actes répréhensibles. Et puis ajouter aussi à cela le problème des mouvements de transhumance, notamment dans la préfecture de Luampéné. Cette paix qui vous tient particulièrement à cœur, cette paix sera-t-elle effective en République centrafricaine?
En tout cas, nous croyons, et ça c'est notre objectif. Vous savez que notre pays, depuis fin 2012, traverse un moment difficile de son histoire. Les fondements de nos nations ont été ébranlés. Il y a des problèmes de division, violence sur l'ensemble du territoire. Les communautés, vivent de manière, ont tendance à vivre de manière séparée, bien d'autres choses, même la confessionnalisation de la crise. Donc aujourd'hui, le peuple centrafricain veut la paix. Et la paix, ce n'est pas un long chemin facile, c'est difficile. Et aujourd'hui, cet accord de paix, pour moi et pour les centrafricains, est un instrument et très important de quête de paix. Nous avons là atteint un niveau qui donne l'espoir au peuple centrafricain de paix. C'est vrai qu'il y a une chose de signer un accord, mais il y a eu autre chose de mettre en œuvre. Mais moi, j'ai confiance, puisque c'est en toute conscience que toutes les parties ont signé cet accord. Moi, en tant que président de la République, j'engage le gouvernement, moi-même, à la mise en œuvre de cet accord, et je pense que les autres parties, nos compatriotes qui ont signé vont faire de même, et je crois que nous travaillons dans ce sens-là.
C'était le président centrafricain Faustin Archange Touadéra lors d'un entretien à la Voix de l'Amérique ici à Washington.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Au Bénin, la campagne électorale pour les législatives du 28 avril a démarré ce vendredi. Aucune liste des partis d'opposition n'a été autorisée à participer à ces élections. Hier soir, dans une émission diffusée sur la télévision nationale, le président Patrice Talon a réaffirmé respecter la Constitution. Cet entretien du chef de l'État a été diversement apprécié par les Béninois. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Si l'intervention de Patrice Talon à la télévision nationale n'étonne pas certains Béninois, d'autres continuent de se poser des questions. Pour eux, aller aux élections sans l'opposition ne favorise pas la paix.
Le président doit savoir que le peuple est mécontent et le peuple réclame les élections.
Nous sommes dans un état de droit et la démocratie ne peut que évoluer normalement avec la mouvance et l'opposition.
Nous sommes décidés à aller jusqu'au bout. Sans opposition, il n'y a pas d'élection.
Nous savons ce que l'exclusion apporte dans les autres pays. Ici, c'est une tradition pour les Béninois d'aller aux élections. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ça.
La prochaine législature sera faite que de députés totalement acquis à la cause du pouvoir. Pour le président Patrice Talon, ce n'est pas si automatique.
Mon objectif, ce n'est pas tout avoir. J'ai voulu réviser la Constitution par deux fois. Et je n'ai pas obtenu la majorité nécessaire. Dans la toute dernière tentative, j'avais la possibilité d'aller au référendum. J'ai dit non. Parce que la révision d'une Constitution doit être toujours consensuelle. Ce n'est pas parce que deux grandes formations politiques seraient les seules présentes au Parlement que cela me donnera une homogénéité absolue. Non, il ne faut pas se faire d'illusions. Le Bénin est un pays de grande démocratie, de grands débats.
L'opposition, à travers plusieurs communiqués, a dénoncé l'intervention du chef de l'État qui n'est pas de nature à préserver la paix. Et au regard de la tension palpable dans le pays, les rois et dignitaires religieux appellent déjà les populations à la sérénité.
Considérant que la paix est l'une des denrées rares de cette démocratie, soucié du rôle qui a été, qui est et qui sera toujours le nôtre dans tous les processus de l'émergence de notre nation, apportons notre caution morale au processus électoral en cours. Prenons le ferme engagement de nous impliquer par notre mobilisation au plan spirituel, au plan moral pour faire des prochaines échéances électorales une parfaite réussite.
Ils seront rejoints par la société civile qui, tout en fustigeant l'absence de l'opposition, appelle les Béninois au calme et à ignorer les appels à la violence lancés par certains acteurs politiques.
La plateforme électorale, elle aussi, elle poursuit un objectif, c'est d'avoir des élections libres et transparentes, c'est de faire en sorte que, aussi, par rapport à ces élections-là, qu'elles se fassent dans une atmosphère pacifique. Ce que nous avons appris, ce que nous avons entendu, nous permet de raffiner notre stratégie, de raffiner aussi nos sensibilisations vis-à-vis de nos compatriotes pour apaiser la tension.
La campagne électorale vient à peine de démarrer. Les craintes d'une explosion de la violence entre militants de partis récalés comme autorisés sont grandes. Peut-être que le dispositif sécurité mis en place pourrait dissuader. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Congo-Brazzaville, les parents de 2000 étudiants en médecine congolais à Cuba sont très préoccupés par la situation de leurs enfants qui n'ont plus de bourse depuis plus de 2 ans. Privés d'informations officielles, ils demandent au gouvernement de trouver une solution à la situation de ces étudiants expatriés. Notre correspondant à Brazzaville nous en dit plus dans son reportage.
À Brazzaville, les parents suivent la situation par les réseaux sociaux, mais surtout grâce aux contacts téléphoniques qu'ils entretiennent avec les enfants. Nombreux, angoissés, sont incertains.
Avec tout ce qui se passe au niveau de Cuba, ni le gouvernement, ni l'ambassade de la représentation diplomatique de notre pays au niveau de Cuba ne communique pas, ne dit pas exactement ce qui se passe là-bas. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, c'est le silence total. Quand l'enfant vous rapporte une information à chaud comme ça, avec des pleurs et tout, et vous comprenez un peu l'émotion des parents qui sont ici à Brazzaville.
27 mois, laisser un enfant détruit dans une ville inconnue où il n'y a aucun parent, aucun frère, aucune sœur, non, c'est cruel. Les enfants sont traumatisés, ils étudient plus bien. On ne sait pas quelle sera la moyenne de ces enfants, leur performance scolaire.
Ces quelques 2000 étudiants congolais en médecine sont arrivés à Havane il y a 3 ans. Mais voici 27 mois qu'ils n'ont pas de bourse. Les parents doivent donc envoyer de l'argent pour soutenir leurs enfants à Cuba.
On est obligé de se serrer les coudes, malgré la vulnérabilité que nous avons aujourd'hui, de soutenir l'enfant de temps à autre.
Ben c'est ce qu'on fait chaque fois du mois, avec les maigres salaires qu'on a aujourd'hui. tu es obligé d'envoyer un peu d'argent chaque fin du mois. Vous n'allez pas demander, par exemple, au gouvernement cubain qui prend déjà en charge la scolarité, le logement de vos enfants et même la ration, de payer, par exemple, les services hygiéniques pour vos enfants.
Depuis quelques semaines, la revendication s'est transformée en des manifestations poussant la police cubaine à intervenir. Des vidéos de cette scène tournées par les étudiants eux-mêmes circulent à Brazzaville et alimentent les commentaires les plus critiques envers les autorités. Feroyel Ngasaki, député du PCT, le parti présidentiel, qui mène une campagne contre les fake news et le mauvais usage des réseaux sociaux, se veut rassurant.
Bon, ça ne se circonscrit pas seulement au niveau de Cuba, c'est une situation d'ensemble. Nous n'arrêtons pas de plaider pour cette cause de nos enfants, de nos étudiants, notamment à l'hémicycle. Nous travaillons pour que justement des solutions soient trouvées. C'est vraiment la volonté du chef de l'État de résoudre ces situations.
La société civile locale envisage une enquête complète de la situation avant d'interpeller les autorités. Joe Washington Ebina, président du FULD.
Et maintenant, nous devenons la risée du continent, du monde, puisque les jeunes Congolais sont en train de manifester d'une manière incroyable. Et la société civile est en train d'enquêter. Nous voulons avoir plus d'informations pour évidemment regarder comment faire une déclaration suite à cette situation-là. Mais pour l'instant, nous sommes très très préoccupés de constater qu'il y a un abandon notoire. À la fin, nous nous demandons à quoi servent les dirigeants.
Dans un communiqué publié hier jeudi, le porte-parole du gouvernement Thierry Lézé-Mungala a annoncé qu'une délégation officielle quittait Brazzaville pour Cuba. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Sur le continent africain, la randonnée devient un bon moyen d'allier sport, détente et même rendez-vous d'affaires. Au Nigeria, cette pratique est populaire près de la capitale Abuja, où de jeunes randonneurs se retrouvent régulièrement sur la colline de Katambe pour une marche amicale à la campagne, bien animée en musique. C'est un récit de Yakuba Wetraogo.
C'est une montée tout en musique pour ces jeunes Nigériens qui gravissent dans la bonne humeur la colline des Katambe qui jonche la capitale Abuja. Ces randonneurs amateurs s'adonnent à ce sport pour échapper au stress quotidien et aussi se faire de nouveaux amis. Joseph Babadé est fondateur de cette randonnée de masse.
La randonnée vous aide à vous connecter, à rencontrer des gens. Elle vous aide à vous faire des amis. Elle est bénéfique au système corporel et aide les gens à découvrir des lieux.
Bisayo Boussari est avocate. Pour elle, ce genre d'activité sportive contribue à renforcer la cohésion sociale.
Je pense que les Nigérians devraient prêter attention à ces genres de collaborations parce que beaucoup de jeunes gens au Nigeria se rassemblent pour célébrer l'unité dans ce pays. Donc à travers la randonnée, vous arrivez à rencontrer des personnes de différentes tribus, de cultures différentes, des orientations différentes en affaires.
L'unité, les rencontres, les affaires, oui, mais tout cela à travers le sport. Et tous les moyens sont bons pour atteindre le sommet de la colline. Une fois là-haut, c'est à cœur joie que les randonneurs s'adonnent à la danse et aux selfies. Ils profitent au maximum de ces moments de détente, alliant sport et plaisir. Ruel Ghetto est entrepreneur.
Nous nous assurons d'inclure le plaisir dans ce que nous faisons. Autant que nous pratiquons le sport, nous nous amusons aussi. Et puis vous pouvez le voir, c'est bon pour la santé.
Ce groupe de randonneurs compte actuellement plus d'une centaine d'adhérents dans la capitale nigériane, cette grande ville qu'ils peuvent contempler du haut de la colline.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma. À la console, Joe Gill. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Abdourahmane Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. VOA Afrique.